Alléluia. Nous sommes dans la joie d'être ici dans la présence du Seigneur. Je remercie les consistoires, les pasteurs, les ministères de la diaconie pour nous avoir choisi, moi et le docteur Muyonga, pour animer cette semaine de la diaconie. Et je suis certain que le Seigneur va nous bénir abondamment. Vous avez eu une semaine peut-être difficile ou bonne. Dans la maison du Seigneur, nous serons là pour être encouragés et voir comment nous allons marcher ensemble. Nous disons merci à la chorale qui nous a dirigés pendant ces moments de louange. Alors cette semaine, c'est la semaine de la diaconie, comme nous l'avons dit. Et à partir d'aujourd'hui, nous allons commencer des enseignements qui vont continuer au courant de la semaine jusqu'au dimanche prochain. Et je vous exhorte vraiment de venir participer à ces enseignements qui vont être riches en bénédictions. Alors, le thème général choisi par notre ministère de la diaconie en collaboration avec les collèges des pasteurs, c'est la diaconie pendant les moments de détresse et du désespoir. La diaconie pendant les moments de détresse et du désespoir. Est-ce qu'on peut le dire ensemble? 1, 2, 3. La diaconie pendant les moments de détresse et du désespoir. Il y a 4 mots clés dans ces thèmes. Diaconie, moment, détresse, désespoir. Diaconie, moment, détresse, désespoir. La diaconie, nous connaissons souvent les diacres, les personnes qui nous servent ici à l'église. Mais le mot diaconie, en des termes très simples, signifie service. Les services. Donc, nous voulons dire que cette semaine, c'est une semaine du service. Tout celui qui sert est un diacre. Donc, si vous enlevez la complication de ces mots-là, retenez seulement que la diaconie, c'est les services. Les moments ici dans ces sujets, nous allons les comprendre comme une période ou une saison. Les mots « moment », comprenez « période », « saison ». La détresse, c'est une situation difficile. C'est une situation d'angoisse. C'est une situation dramatique, une situation de manque de moyens. C'est ça, la détresse. Et le désespoir, c'est la perte de toute espérance, l'abattement, la perte de toute espérance que quelque chose de bien peut arriver. J'ai donc reformulé un peu le sujet dans des termes beaucoup plus simples pour dire que notre sujet, c'est les services ou rendre service pendant des situations difficiles, pendant des situations de manque de moyens et pendant des moments d'abattement et des manques d'espérance. Rendre service pendant les situations difficiles, pendant les situations de manque de moyens, pendant les périodes de perte et pendant les périodes d'abattement. En d'autres termes, rendre service au Congo. Si nous pouvons très bien lire ces textes, parce que je pense que ça décrit un peu la situation dans laquelle nous nous trouvons en RDC, une situation de désespoir, une situation de crise et on nous demande de rendre service, de donner à d'autres. Et nous nous posons la question, comment nous qui sommes dans la souffrance, on nous demande encore de rendre service? Normalement, c'est nous qui devons recevoir les services. Cette semaine de la diaconie, pendant les moments de détresse, va nous aider à comprendre comment nous pouvons rendre service, comment nous pouvons être des diacres dans des moments de notre propre détresse ou en face de la détresse de l'autre devant nous. Donc le sujet d'aujourd'hui, c'est une question, qu'ai-je à offrir? Qu'est-ce que j'ai à offrir au monde? Qu'est-ce que j'ai à offrir à l'autre? On peut te demander de servir, mais qu'est-ce que tu as à donner? Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Nous serons dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 3. Si vous pouvez ouvrir avec moi Actes des Apôtres, chapitre 3, nous allons aller rapidement parce que nous avons beaucoup à couvrir et le temps nous est compté. Actes des Apôtres, chapitre 3. Avant la lecture, je vous donne un peu le contexte dans lequel nous lisons ces textes de Actes des Apôtres. Nous savons que le livre des Actes des Apôtres a été écrit par Luc. Luc qui a aussi écrit le livre de Luc. Et il a écrit à une seule personne qui s'appelle Théophile. Il lui a écrit le livre de Luc, qui est un des évangiles. Et puis il lui a écrit le livre des Actes des Apôtres. Le livre des Actes, dans le livre de Luc, Luc écrit à Théophile ce qu'était la vie de Jésus. Il lui raconte la naissance de Jésus, il lui raconte la vie de ses parents, il lui raconte les enseignements de Jésus. Et dans ce deuxième livre, il parle des actes que les apôtres ont faits, quelques actes que les apôtres ont faits après avoir rencontré Jésus et après avoir devenu des disciples. Donc, le livre des Actes des Apôtres, c'est une documentation des actions de ce qui est arrivé après la croyance et la vie que les disciples ont passée avec Jésus. C'est comme si Luc venait ici à Gomaville et qu'il commence à documenter les actes des chrétiens de Gomaville et qu'on nomme ce livre « Actes des chrétiens de Gomaville ». Je ne sais pas si ce qui peut écrire ici commence à documenter nos actes, mais nous voyons ici dans le livre des actes, c'est un échantillon des actes que les apôtres ont posés, et c'est ça un peu le livre de Luc. Là où nous allons lire au chapitre 3, il y a au chapitre 2, vous allez voir, c'est la Pentecôte, les disciples viennent de recevoir l'Esprit Saint, Pierre vient de prêcher à tout le monde, et 3000 personnes viennent de venir en Christ, et maintenant nous arrivons au chapitre 3, qui est après juste ces moments de Pentecôte, où beaucoup de gens viennent de venir à Christ. Donc, lisez avec moi Actes chapitre 3. Nous serons dans tous les chapitres, mais pour question de lecture, nous allons lire seulement du 1er au 12e verset. Actes chapitre 3, du 1er au 12e. Si vous êtes là, dites Amen. Merci, je vois qu'on est là. Je lis dans la version Louis II, Actes chapitre 3. Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. C'était la 9e heure. Il y avait un homme boiteux de naissance qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple appelé la Belle, pour qu'il demandait l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Cet homme voya Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixant les yeux sur lui, et dit, « Regardez-nous !» Et il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Alors Pierre lui dit, « Je n'ai ni argent, ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus, de Nazareth, lève-toi et marche. » Et les prenant par la main droite, il les fit lever. Au moment, au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. D'un seul saut, il fit debout et se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Tout le monde le vit marchant et louant Dieu. Il reconnaissait que c'était celui qui était assis à la belle porte du temple pour demander l'aumône. Et ils furent remplis d'étonnement et de surprise au sujet de ce qui était arrivé. Comme ils ne quittaient pas Pierre et Jean, tout le monde étonné accourut vers eux et au portique dit de Salomon. Pierre, voyant cela, dit au peuple, « Hommes israélites, pourquoi vous étonnez-vous de cela? Pourquoi avez-vous des regards fixés sur nous, comme si c'était par notre propre puissance ou par notre propre piété que nous eussions fait marcher cet homme, parole du Seigneur. » Alors nous connaissons ce texte ici des Actes des Apôtres. Imaginez un peu la scène, Pierre et Jean qui vont au temple pour prier et il y a ces paralytiques devant la porte qui dit « Monifungurire, aidez-moi ». Il demande de l'aumône, Pierre et Jean regardent cette personne et lui disent, « Nous n'avons pas de l'or, nous n'avons pas d'argent. Mais ce que nous avons, nous te les donnons. Au nom de Jésus, marche !» Et Pierre les tient par la main et les fit debout. Et nous voyons ici qu'il entre au temple et qu'il loue le Seigneur avec eux. Et en sortant du temple, tout le monde est étonné et ils viennent vers Pierre, commencer à les regarder comme des petits dieux. Et Pierre prend l'opportunité de dire, « Ne nous regardez pas, parce que ce n'est pas nous qui avons fait ces miracles, mais c'est plutôt le Christ, et il va profiter pour donner un message d'évangélisation. » Voilà un peu le texte sur lequel nous allons construire notre matière, qui sera en deux parties. La première partie, nous allons parler des cinq contradictions que nous voyons dans la vie de ces paralytiques et leur parallélisme à nos vies. Les contradictions que nous voyons dans la vie de ces paralytiques, et nous allons voir comment cela peut arriver dans nos vies. La deuxième partie, bien sûr, je vais vous donner quatre voies, quatre choses pratiques que vous pouvez faire, que Pierre a montré comme l'exemple avec ces paralytiques. Donc, nous commençons par les contradictions dans la vie du paralytique. La première contradiction que nous voyons, c'est une aide constante, mais pas suffisante. Si vous lisez les versets, alors toutes les photos que vous allez voir ici sont juste pour l'illustration. Donc ne pensez pas qu'on les a pris quand Jésus était là, non. Il n'y avait pas encore d'appareil. Donc c'est pour l'illustration. Une aide constante, mais pas suffisante. Si vous lisez au verset 2, vous allez trouver qu'il y avait un homme boité de naissance comporté, on plaçait tous les jours devant la porte. Et l'homme avait 40 ans. Imaginez avoir un travail de porter quelqu'un chaque jour pour le placer là où il doit demander l'aumône pendant 40 ans. C'est un boulot, n'est-ce pas? Nous voyons que cet homme n'était pas abandonné. Il avait des gens dans leur vie, dans sa vie. Il avait des personnes qui s'occupaient de lui et qui avait la responsabilité de l'amener au temple pour demander, et peut-être d'aller le prendre le soir. Je peux imaginer les frères et sœurs faire un programme, où je t'ai appelé lundi, l'autre mardi, l'autre mercredi, ou parfois on dit, moi je suis occupé, est-ce que tu peux aller prendre notre paralytique pour le ramener à la maison? Donc quand même, il avait des gens dans sa vie qui le portaient chaque jour, et le plaçaient au temple, et chaque jour on le ramenait à la maison. Donc cet homme n'était pas seul. Il avait de l'aide. Il avait des personnes dans sa vie. Mais nous voyons que cette aide était constante pendant 40 ans. Mais cette aide n'était pas suffisante. C'était une aide de maintenance. Une aide de maintenance, maintenir, ça signifie quoi? Garder la chose dans son état. N'est-ce pas? Si on te demande de maintenir quelque chose, ça signifie ne le change pas. Nous voulons les trouver comme nous l'avons donné, comme nous l'avons cédé. Maintenance. Donc, cette personne a une aide. Pendant 40 ans, imaginez mes chers amis. Beaucoup d'entre nous ici n'ont pas 40 ans. 40 ans, c'est beaucoup. Et imaginez que pendant ce temps, vous vous occupez d'une personne, vous l'amenez à la porte pour demander et le ramène le soir. Il avait une aide, mais l'aide n'était pas suffisante. Et c'est comme ça que nous nous retrouvons aussi dans nos vies. Parfois, nous pouvons avoir des gens qui nous aident, mais cette aide ne nous permet pas d'aller à un autre niveau. Parfois, nous avons des gens dans notre vie que nous aidons, mais nous les aidons seulement pour les maintenir en vie. Allô? Imaginez que vous ayez quelqu'un à qui vous donnez 2000 francs par jour. Est-ce que cette personne peut mourir de faim? Non. Mais est-ce que cette personne peut faire des exploits? Bon, certains qui sont économistes peuvent dire c'est possible, s'il mange seulement 1000 francs, il économise les 1000 francs. Je vois Ozias déjà en train de calculer sur 5 ans comment il peut avoir. Il y a beaucoup déjà ici qui connaissent mettre un franc sur l'autre, un dollar sur l'autre. Je voulais le dire à Kinan demain, ça va sonner très mal. Mais donc mettre les francs sur les autres. Vous pouvez me chercher après, je vais vous dire comment on le dit. Alors, si vous donnez à une personne 1000 francs ou 2000 francs par jour, cette personne va vivre. C'est une aide.
Mais l'aide n'est pas suffisante pour que la personne aille à un autre niveau. Pendant que nous parlons de la diaconie dans les moments de détresse, nous sommes souvent aussi, surtout en Afrique, bénéficiaires d'une diaconie, mais une diaconie de maintenance qui maintient les personnes dans une situation de soins palliatifs, une situation de maintenance à vie. C'est une diaconie parce que ça aide la personne à fonctionner, mais c'est une aide qui n'est pas suffisante. Voici la première contradiction que je vois dans la vie de ces paralytiques. Il a une aide constante, mais cette aide n'est pas suffisante. Et nous, dans nos vies aussi parfois, ou même les personnes que nous aidons, nous donnons suffisamment de l'aide seulement pour que la personne vive, mais on ne donne pas suffisamment pour que la personne aille. Même au niveau de l'Église, les offrandes que nous donnons, est-ce que nous les donnons suffisamment pour que la paroisse fonctionne ou est-ce qu'on les donne pour que la paroisse aille à un autre niveau? C'est juste une question. Ne répondez pas maintenant. Je vais la poser encore. Les offrandes que nous donnons, est-ce que ce sont des offrandes de maintenance ou ce sont des offrandes pour aider l'Église à avoir de l'abondance? On va y revenir dans la courant de la semaine. La deuxième contradiction, nous voyons un lien stratégique et une abondance cohabitant avec la pauvreté extrême. Un lien stratégique et une richesse cohabitant avec une pauvreté extrême. Si vous regardez le verset 2, vous allez trouver qu'on a amené les paralytiques devant la porte qu'on appelle la belle porte. Le temple de Jérusalem avait plusieurs portes. Il y avait la porte principale, comme notre porte est là, qui regardait à l'est de la ville et qui était dans la même ligne avec la porte de la ville qu'on appelle la porte de Salomon. Donc quand Salomon avait construit la ville et avait construit le temple, il avait aligné la porte où il va entrer avec la porte de l'église. Donc sa procession venait tout droit jusque dans cette porte. Donc elle était la porte la plus décorée du temple, la porte appelée la belle. Donc tous les dignitaires des juifs entraient par cette porte pour aller adorer Dieu. Tout le monde d'important devait passer par cette porte pour aller adorer le Seigneur. Et les gens qui aidaient les paralytiques l'ont placé à cette porte. Ce n'était pas anodin, c'était stratégique. Parce que aussi les gens sont entrés d'aller au temple. Et pour les juifs donner aux pauvres, c'était parmi les lois que Dieu avait établies. Ça signifie que quand même, il était dans un lieu stratégique avec une richesse abondante autour de lui, mais dans une pauvreté extrême. Pourquoi abondante? Cette porte est décrite comme couverte d'or et d'argent. Imaginez une porte ici à Gomaville qu'on peut faire en or. Allô? Combien de gens vont accepter que nous fassions une porte en or ici à Gomaville? Nous allons commencer à dire, mais cet argent peut être vendu et on aide les pauvres. N'est-ce pas? Et c'était ça, cette porte. C'était joli. Et ce qui est important de savoir à cette porte, et on va y revenir après, c'est qu'il était interdit à tous les exclus d'entrer dans le temple par cette porte. Donc, si tu étais un étranger, tu ne pouvais pas passer par cette porte pour entrer au temple. Si tu avais un défaut physique, tu ne pouvais pas entrer au temple par cette porte. Et c'est pour cette raison que notre paralytique doit rester à la porte. Il ne peut pas entrer en raison de son infirmité. Il doit rester à l'extérieur de la porte. Il est devant l'accès le plus important, mais n'a pas la permission. Il n'a pas la facilité d'entrer. Est-ce que ça ne vous décrit pas un pays que vous connaissez? Un pays qu'on vous dit est potentiellement riche. Combien d'entre vous savent que le Congo est potentiellement riche? Et combien d'entre vous sont riches? Ou même ne sont pas riches? Combien d'entre vous se sentent riches? Tu n'es pas riche, mais tu te sens riche parce que tu es en train de marcher sur de l'or. Parce que maintenant, nous sommes en train de marcher sur la richesse, n'est-ce pas? Et combien d'entre nous se sentent riches? Nous sommes dans la situation du paralytique où nous sommes entourés de l'abondance, mais l'abondance n'est pas dans notre poche, n'est pas dans notre vie. Le paralytique est devant cette porte qui montre la beauté et la sagesse de Salomon, mais n'a pas la permission d'y entrer. Et il doit rester là à l'extérieur. Voici un peu les contradictions que nous voyons dans notre vie et que nous nous retrouvons dans l'abondance, mais nous n'avons pas accès à cette abondance. Regardez un peu les banques. Certains d'entre vous, plusieurs voient la banque et au supermarché. Quand vous allez à la banque, une des choses que vous allez remarquer, il y a des mendiants à l'extérieur, n'est-ce pas? Quand vous allez au supermarché, il y a des mendiants ou à l'extérieur, et au marché, il y a des mendiants. Qu'est-ce qu'ils font? Ils sont là pour demander quelque chose. Mais demandez à ces mendiants combien d'entre eux ont déjà piétiné dans la banque. Allô? Un jour, peut-être, tu vas à la banque, EcoBank ou je ne sais pas quelle banque, ou Goma Bank, Gomaville Bank. Tu vas là-bas, demande seulement à un des mendiants, « Mouni, nani joa shengia mou mou banke lakin ?» Tu vas trouver qu'ils sont là tous les jours, mais ils ne savent jamais à quoi ressemble l'intérieur. Tu vas à Kin marché, c'est la même chose. Tu vas trouver des mendiants à l'extérieur, mais ils n'ont jamais traversé cette porte-là pour entrer à l'extérieur. Donc, il est possible d'être entouré de l'abondance sans jouir de cette abondance. Ça, c'est ce que nous appelons la diaconie dans les moments de détresse et de désespoir. Et cette semaine, nous allons voir comment changer tout ça. Et là, j'ai une question pour cette contradiction. Combien d'entre vous voient des mendiants aux portes des églises? Je ne vois très rarement, je ne pense pas que je n'ai jamais vu des mendiants aux portes de l'église. C'est tous les dimanches. Alors posons-nous la question, pourquoi les mendiants vont devant la banque, devant le supermarché et pas aux portes de l'église? Est-ce que ce n'est pas un message qui nous envoie à nous qui entrons à l'église? Parce que les mendiants se placent d'une manière stratégique, là où les gens qui sont autour peuvent donner. Normalement, si nous étions généreux, il y aurait beaucoup déjà chaque matin, chaque dimanche ici à l'extérieur. Parce qu'ils savent que les gens qui entrent ici, ils laissent quelque chose. C'est juste une question que je me suis posée. Je me suis posée, pourquoi je vois des mendiants devant les bars, devant les supermarchés, au marché, devant les banques, mais rarement vous voyez les mendiants aux portes de l'église. N'est-ce pas un message à nous, les chrétiens qui vont à l'église? N'est-ce pas une compréhension que les gens qui sont extérieurs ont compris qu'ils peuvent venir là-bas, mais il n'y aura pas de l'aide? Il y a peut-être des exceptions, c'est juste que je vous fais remarquer. La troisième contradiction, on y va très rapidement. Nous voyons un homme connu principalement pour son infirmité. Ces chaussures ici, si vous les avez, il faut venir nous voir. Il faut qu'on fasse la diaconie auprès de vous. Nous voyons un homme mendiant et vous allez voir que la Bible ne nomme pas qui est cet homme. On dit qu'il y avait un homme. Partout où on se réfère à l'homme, on ne dit pas son nom, mais on le décrit par sa situation. Nous avons un homme qui est devenu tristement célèbre à cause de sa situation. Combien d'entre nous sont devenus tristement célèbres à cause de notre situation? Ou le moyen par les Fukuza Mukazi. Et ça te colle à la peau, celui qui avait perdu l'enfant, celui qui avait fait ceci. Nous avons tendance, nous les humains, à connaître les gens par leur situation au lieu de les connaître dans le cadre de les aider. C'est la question aussi de la RDC. Si vous voyez à l'extérieur de la RDC, vous allez trouver que la RDC est très célèbre, mais tristement célèbre. Nous sommes connus par notre situation. Cet homme ici était connu, mais à cause de sa situation. Et si nous voyons que parfois nous traversons des situations difficiles qui marquent notre vie, et cette semaine nous allons voir comment faire, comment, et c'est tout demain, comment recevoir de l'aide et comment en donner. Je suis en train de passer rapidement. La quatrième contradiction, c'est une expérience dans la souffrance, une attente du désespoir. Cette photo ici a été prise en Centrafrique, République centrafricaine. C'est l'un des pays qui souffre. Nous pensons qu'au Congo, nous souffrons, mais si vous allez là-bas, en tout cas, eux souffrent. Donc, la souffrance est sur une échelle et ils sont quelque part, très loin de nous. Et nous voyons ces paralytiques avaient déjà développé l'expérience dans la souffrance. Et il avait une attente. Donnez-moi l'aumône, passez. Donnez-moi l'aumône, passez. Quand on a souffert très longtemps, on finit par développer l'expérience dans la souffrance.
Allô?
Est-ce que vous avez déjà vu quelqu'un vous demander « Nana regeza macho » de façon que tu penses que si tu ne donnes pas en tout cas, tu n'iras pas au ciel? Quelqu'un a déjà développé des stratégies ou même des gens qui demandent de l'aide. Quelqu'un peut développer des stratégies qui lui permettent de manipuler les émotions des personnes autour. C'est une expérience dans la souffrance. Il y a un militaire là au niveau du Kakatindo, je ne sais pas si c'était d'entre vous ou l'ont déjà vu, je pense qu'on l'avait fusillé et il n'a plus des os dans l'un des bras. Alors quand il demande, il tourne comme ça la main. Je ne sais pas si certains d'entre vous l'ont déjà vu. Donc c'est... Donc tu es obligé de lui donner pour avoir une conscience tranquille. Et ici nous voyons ces paralytiques avaient déjà développé l'expérience parce qu'on dit que quand Paul, Pierre et Jean sont venus, il dit il les regardait en attendant que c'était un regard pour dire un message. Mais le regard là, même si c'est un regard puissant, c'est un regard pour demander seulement quelques pièces de monnaie. Seulement quelque chose de petit. Imaginez, mes chers amis, si vous allez quelque part et vous trouvez un mendiant qui vous dit « En tout cas, mina tese kanipatie telefoneako. » Si quelqu'un venait, il est à court de route, il vous dit « Je suis mendiant, donnez-moi votre téléphone. » Vous allez dire quoi? Tu as un problème dans la tête, n'est-ce pas? Et si un mendiant venait chez vous, il toque à la porte, vous venez ouvrir, c'est « En tout cas, nous sommes des locataires, on bouge chaque fois, nous, en tout cas, nous voulons une parcelle, donnez-nous cette parcelle. » C'est ce que nous demandons seulement, donnez-nous la parcelle. Vous allez dire qu'il y a un problème avec ces mendiants, n'est-ce pas? Parce que nous tous, dans la société, nous avons accepté que ce qu'un mendiant peut demander, c'est seulement la nourriture ou juste un peu d'argent. Ce qui signifie que nous pouvons, en tant que société, mettre une barre sur l'espoir de ce que les gens peuvent attendre de nous et de la société. Et cette barre, nous la mettons aussi sur nous-mêmes, même dans la prière. Nous avons tellement souffert que même quand tu pries, tu mets des garde-fous pour dire, bon, je sais que ça peut ne pas marcher, donc il ne faut pas très prier pour ne pas être déçu. Allô? Si nous demandons ici, nous allons prier pour le Congo, combien d'entre vous vont dire, Seigneur, nous te donnons 7 jours que la guerre finisse? On ne peut pas donner ce genre d'ultimatum à Dieu parce qu'on sait, mon cher, ce genre de choses, il faut prier, mais en sachant que ça va être long. Et parfois, quand nous prions, nous nous aidons, que le Seigneur nous donne la force d'affronter. Si vous rencontrez quelqu'un qui dit, bon, moi, je vais faire un miracle, je vais prier pour que la mort s'arrête, il n'y aurait plus de mort. Combien d'entre vous vont se joindre dans les jeûnes pour aider la personne? Non, on ne peut pas faire ça parce que ça n'a pas de sens. Ça signifie que nous avons déjà mis une limite sur ce que nous pouvons demander. Le mendiant ici a une expérience, mais l'expérience ne l'aide pas. Parce que ça l'aide seulement à obtenir. La dernière contradiction, c'est une proximité avec Jésus sans guérison. Une proximité avec Jésus sans guérison. Nous voyons ici, mes chers amis, si vous regardez la vie de Jésus, vous l'avez trouvé tout plusieurs fois que Jésus est allé au temple. Ce qui signifie que Jésus est passé par ces paralytiques qui étaient là pendant 40 ans, chaque fois qu'il allait au temple et n'allait pas guéri. Ce qui signifie que quand Jésus était allé au temple à l'âge de 12 ans, ces paralytiques étaient là. Et j'ai fait les calculs, ces paralytiques auraient 19 ans quand Jésus est allé au temple à l'âge de 12 ans. C'est un jeune homme de 19 ans qui était assis là-bas paralytique. Quand Jésus est allé chasser les gens du temple, ces paralytiques étaient là. Il était peut-être parmi ceux qui ont raconté l'histoire. Et tu sais, il y a un monsieur qui est venu, il a chassé des gens au temple. En tout cas, le business aujourd'hui, ce n'était pas bien. Donc, les gens ont perdu beaucoup de choses. Et moi aussi, même mes petits coins, mes petites pièces de monnaie ont été dispersées. Il était dans toutes les histoires, là. Il connaissait tout. On vient de crucifier Jésus. Les gens doivent passer par les temples. Il connaît tout ça. Il était dans la proximité de Jésus, mais il n'a jamais trouvé la guérison. Mais une chose qui est intéressante, est-ce que vous savez que Jésus savait que ce paralytique était là? Et il savait que ce moment viendrait en Actes chapitre 3. Même quand Jésus passe auprès de lui à l'âge de 12 ans, je ne sais pas, j'imagine peut-être qu'il le voit et lui dit, ton moment vient, ton moment de ta guérison va venir. Une proximité avec Jésus sans guérison. Voyons rapidement la deuxième partie, la voie d'une diaconie authentique. Qu'est-ce que nous pouvons faire? Je viens de décrire un peu les contradictions que nous voyons dans la vie de ces paralytiques, mais qu'est-ce que nous pouvons faire? Quelle voie d'une diaconie authentique qui est exemplifiée par Pierre et Jean? La première voie, nous voyons un regard de compassion que j'ai appelé un regard. Un regard de compassion, un regard. Dis à ton voisin, un regard. Dis à ton voisin, un regard. Dis à l'autre voisin, en kiswahili, un regard. Je vous ai entendu rire et pas dire. Et dis à l'autre en anglais, un regard. Le langage s'arrête. Nous voyons ici que Pierre va dire, si vous voyez le verset 4, Pierre, de même que Jean, fixant les yeux sur lui, et dit, regardez-nous. Waouh. Pierre et Jean, fixant les regards sur l'homme, et lui dit, regardez-nous. Une vraie diaconie commence par un regard nouveau sur des situations qu'on connaît. C'est possible que Pierre et Jean savaient que ces paralytiques étaient là, mais c'était comme si c'était pour la première fois qu'ils voyaient ces paralytiques. Parce que la Bible précise qu'il fixa les regards sur eux. Vous savez, parmi les choses que vous allez savoir que personne, quelqu'un ne va pas vous aider, et qu'il évite de vous regarder dans les yeux. Allô? Si vous demandez de l'aide et vous voyez que quelqu'un commence à regarder ailleurs, ça c'est que en tout cas ça ne va pas marcher. Vous entrez dans un bureau, vous présentez votre problème et quelqu'un est très occupé en train de regarder ailleurs, sachez déjà que ça ne va pas marcher. Parce que cet évitement du regard, c'est déjà un message pour dire, mon cher. C'est comme quand quelqu'un vient mendier à la maison où tu es dans un embouteillage, tu vois déjà à la porte. Qu'est-ce que tu fais? Les gens s'occupent avec le téléphone. Moi, ce que je fais, je regarde devant. Tu regardes devant comme si tu n'attends rien. La diaconie commence par un regard nouveau sur la situation qu'on connaît. Et cette semaine, nous voulons que tu puisses avoir un regard nouveau sur toute situation autour de toi. Est-ce que tu peux regarder ta situation, la situation de l'autre qui est à côté de toi, la situation du pays? Et quand tu vas faire un regard, tu vas trouver que non, cette personne n'a pas besoin de l'argent. Comment Pierre a su que cette personne n'avait pas besoin juste de quelque chose pour apaiser sa conscience? Parce qu'il a regarder la personne et il a permis à la personne de les regarder. Je vous lance ce défi, mes chers amis. Est-ce que vous avez déjà regardé les situations qui sont autour de vous? Est-ce que quand vous entrez ici à Gomaville, il est possible de regarder les besoins de l'église? Quand vous allez commencer à regarder, ça fait quelques semaines que nous avons des problèmes de microphone. Certains d'entre vous n'ont même pas encore remarqué. Allô? Ça fait quelques temps qu'il y a des petites choses qui ne fonctionnent pas ici à la paroisse, mais il y a certains d'entre vous qui n'ont même pas encore remarqué. Parce que vous passez par la porte, la belle porte, chaque jour. Mais cette semaine de la diaconie, nous vous invitons à regarder. Certains d'entre vous vont remarquer que là où vous êtes assis, il y a la moisissure à côté du mur. Ça, c'est un regard. On entre souvent par ces temples. Certains d'entre vous vont remarquer pour la première fois qu'il n'y a pas une nouvelle peinture dans les classes de l'Écodime. Vous savez qu'on peut vivre ici 5 ans sans les remarquer. On peut vivre 5 ans avec quelqu'un sans remarquer que la personne a un problème. Mais la diaconie nous invite, comme Pierre a dit, à re-regarder la situation. Parce que quand on ne fait pas les re-regards, on a tendance à donner la solution à laquelle on est habitué. C'est un paralytique, il a besoin de 500 francs, on lui donne. Mais ça peut être que cette personne est là, tu lui as donné, mais la personne porte un enfant malade sur le dos. Et quand tu re-regardes, tu peux dire, ah, cette personne a besoin à manger, mais la personne porte un enfant. Quand nous re-regardons la situation du pays, la situation de notre ville, nous allons commencer même à remarquer des routes que nous pouvons créer qui n'existent pas. Parce que parfois, nous pensons quelque part, tu n'as jamais remarqué, on peut créer une route ici, mais il faut un re-regard. Je vous défie, mes chers amis, pendant cette semaine de la diaconie, de jeter un re-regard sur les vies des gens. Deuxième chose pratique que nous pouvons faire, une aide au-delà de la demande. Une aide au-delà de la demande. Quand nous re-regardons, quand nous jetons un regard nouveau sur la situation, le Seigneur nous inspire l'aide appropriée que nous devons offrir à cette personne-là. Pierre et Jean constatent que cette personne demande de l'aumône, mais elle a plutôt besoin de marcher. Si quelqu'un venait à vous et vous dit « je n'ai pas d'argent », peut-être que vous allez remarquer pour la première fois que cette personne, son problème, ce n'est pas l'argent, mais il a une philosophie qui ne lui permet pas d'avoir de l'argent. Allô? Si quelqu'un vient devant vous et vous dit « mes chers amis, priez pour moi, j'ai des problèmes dans mon couple », si tu les regardes, tu peux remarquer que non, cette personne a un caractère que même si on me demandait de vivre avec cette personne tout à Korogan. Ce qui signifie que tu peux adapter l'aide si tu as pris le temps de regarder, donner l'aide au-delà de l'attente et de la demande. C'est ce que fait Pierre ici. Et Pierre et Jean vont dire quelque chose. La personne demande l'argent et Pierre va dire « l'or et l'argent, nous n'avons plus, nous n'avons pas. Mais ce que nous avons, nous te les donnons au nom de Jésus. Lève-toi et marche. » Alors, je vais vous faire réfléchir. Pourquoi Pierre et Jean prennent ces grands risques? Et si les paralytiques ne marchaient pas? Alors, nous sommes devant la porte, la belle porte, où il y a tout le monde qui est en train de passer. La personne vient à Koubalomba Tembe. Au moins pour Jésus, on savait que les gens venaient dire, je vais voir l'autre Jésus affirmé. Lui demandait seulement de l'argent. Mais Pierre s'aventurait. Et il dit, ok, moi je n'ai pas l'argent, je n'ai pas de l'or, mais au nom de Jésus, lève-toi et marche. Waouh! Et il n'y a pas dans la Bible une consultation où Pierre a d'abord demandé à Jean, mon cher Jean, comment tu trouves si on demandait cette personne? Et vous savez que Pierre est toujours pressé à parler. Il a même parlé au niveau devant Jésus et Jésus lui a dit, derrière moi Satan. Donc il y avait un risque que Pierre s'aventurie de dire quelque chose que Dieu ne lui a pas demandé de faire. Au nom de Jésus. Mais je vais vous montrer pourquoi Pierre avait la confiance et l'assurance que Dieu allait guérir ces paralytiques. Voyons très rapidement Luc chapitre 9, verset 1 à 6. Je ne vais pas lire, je vais juste raconter l'histoire parce que le temps court très 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 rapidement. Alors Luc chapitre 9. Et aussi, c'est le même texte est aussi dans Matthieu chapitre 10, si vous voulez aller faire des études. Ici, vous allez voir que Jésus envoie ses disciples et dit, Jésus ayant rassemblé les 12, leur donna la force et le pouvoir sur tous les démons avec la puissance de guérir quoi? Les maladies. Vous voyez? Et il dit, il les envoya prêcher le royaume de Dieu et guérir quoi? Guérir les malades. Et il leur dit, ne prenez rien pour le voyage, leur dit-il, ni bâton, ni sac, ni pain, ni argent, n'ayez pas de tunique. Est-ce que vous ne voyez pas le parallélisme avec ce que Pierre est en train de faire? Il dit, ni or, ni argent, nous n'avons pas. Quand Jésus leur envoie pour aller guérir, il les envoie avec absolument rien. il les envoie seulement avec son autorité, avec son nom. Ne prenez ni or, ne prenez ni argent, mais prenez mon nom, prenez l'assurance que je peux guérir. Ça signifie que Pierre avait déjà pratiqué à la présence de Jésus. Et vous allez trouver, si vous lisez dans Matthieu et Luc, que quand ils sont revenus, ils ont dit, Jésus, nous sommes très contents. On a vu des paralytiques marcher, on a fait ceci. On a vu, même il y a même quelqu'un qui a dit, moi j'ai vu Satan tomber. Je pense que c'est Jésus qui a dit, j'ai vu dans le ciel des choses se passer. Donc c'était une fête. Et Jésus va dire, Paul. Ne vous réjouissez pas parce que les paralytiques ont été guéris, mais réjouissez-vous parce que votre nom est inscrit dans les cieux. Jésus leur donne l'expérience de faire les miracles et les refocalise sur ce qui est essentiel. Donc, ce n'était pas la première fois que Pierre opère un miracle de guérison. Il l'avait déjà fait avec Jésus. Et il savait que Jésus leur avait dit, « Tout pouvoir m'a été donné, maintenant allez !» Et avec cette assurance, avec l'expérience qu'il avait déjà eue avec Jésus, de guérir les malades avec les autres disciples, et avec l'Esprit Saint qui l'inspire de dire cette parole. Pierre avait une autre expérience avec Jésus. Quand Jésus marche sur l'eau, et il dit, « Seigneur, si c'est toi que je vienne vers toi, » Jésus dit, « Viens. » Sur la parole que Jésus va prononcer de venir, Pierre va marcher sur l'eau. Donc, il savait quand même c'était quoi la puissance de la parole. Alors, quand le Saint-Esprit l'inspire de guérir, de prononcer, il dit, « Ce que j'ai, je te le donne. » Ce que j'ai, c'est quoi? C'est le nom de Jésus. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. Est-ce que tu as le nom de Jésus que tu peux donner à quelqu'un? Est-ce que tu peux dire comme Pierre, qu'est-ce que tu as déjà eu comme expérience avec Jésus sur lequel tu peux te baser pour dire, en tout cas, selon mon expérience avec Dieu, je sais qu'il peut faire ça. Si tu n'as pas cette expérience, on a prononcé ma parole, habite à quoi? Et c'est comme ça qu'on a sali l'évangile. Parce que les gens disent qu'il y aura des miracles, mais ils n'ont pas eu d'abord cette expérience avec Jésus. Ils n'ont jamais essayé ça avec Christ. Seulement parce que les gens sont contents ici, bon, que Dieu va guérir quelqu'un. Est-ce qu'il a dit qu'il va guérir? Parce que ce qu'il faut savoir est que Dieu est derrière sa parole pour l'accomplir, pas ta parole. Il est derrière sa parole. Donc notre rôle en tant que chrétien, c'est de savoir est-ce que Dieu l'a dit ou pas. S'il l'a dit, quel que soit ce que vous allez prononcer, cela va s'accomplir. 3. Du mendiant au vis-à-vis. Nous voyons ici, Pierre prend la personne par la main, le paralytique, et le lève et le met debout. Il est mendiant, il est par terre. Il devient un égal de Pierre en vis-à-vis. Il amène à son niveau. Et ce qui va se passer après est très intéressant parce que imaginez, rappelez-vous, je vous ai dit que le temple, la porte ici, était la belle porte et qu'il était interdit aux exclus d'entrer par cette porte. La personne était paralytique, il ne pouvait pas entrer par cette porte, mais il vient de guérir. La Bible dit qu'il entra par la porte pour aller louer Dieu. C'était peut-être pour la première fois que ces paralytiques dépassaient cette porte où il était assis pendant 40 ans. Parce qu'il vient de recevoir la guérison au nom de Jésus et il entre par cette porte qui lui était interdite. Il devient, d'un mendiant, il devient un adorateur. Amen. Est-ce que nous pouvons, avec notre service, notre diaconie, de transformer des mendiants en adorateurs? De transformer des personnes qui étaient bas et de les amener à notre niveau. La vraie diaconie qui est montrée ici, c'est d'amener quelqu'un à surmonter son désespoir et surmonter ses problèmes. Nous allons voir au cours de la semaine comment les faire en pratique. La dernière chose, une diaconie qui exalte le Christ. Si vous lisez à partir du verset 12 en continuant, vous allez trouver que, imaginez un mendiant que vous connaissez pendant 40 ans, pour ceux qui vivent depuis 40 ans et plus, et les autres que vous connaissez depuis votre naissance, et vous le voyez marcher. Il n'y a pas de dispute sur c'est vrai ou pas, c'est vrai. Et tout le monde est étonné et ils viennent vers Pierre et commencent à les regarder pour dire « Waouh, les dieux sont tombés sur la terre. » Non, les gens sont venus, ils ont une puissance. Pierre utilise cette opportunité où tous les regards sont fixés pour lui pour exalter le Christ. Il dit « Mes chers amis, ce n'est pas nous qui avons fait ça. » Imaginez là où je vous ai montré à Luc et à Matthieu, où Pierre et les autres disciples ont dit à Jésus « Nous avons vu, nous avons guéri, c'était de nous. Nous avons chassé des démons, nous avons fait ceci. Mais maintenant, après sa transformation et après avoir rencontré le Saint-Esprit, Pierre ne dit pas « nous ». Il dit « non, ce n'est pas nous, c'est plutôt qui ?» C'est plutôt le Christ qui a opéré ceci et il profite pour prêcher la parole. Est-ce que notre service, notre diaconie, c'est une diaconie qui exalte le Christ? Tu peux faire beaucoup de bonnes choses, mais est-ce que cela exalte le Christ? En conclusion, la voie d'une diaconie authentique. Nous venons de dire, pour faire une diaconie authentique, il faut un regard. Un regard de compassion sur l'autre. Il faut une attente au-delà. Offrir une aide au-delà de l'attente. Il faut amener les gens du mendiant à un vis-à-vis. Et il faut une diaconie qui exalte le Christ. Je voulais que vous puissiez retenir, même si vous pouvez faire la capture d'écran de ces quatre choses, et vous poser la question, est-ce que je peux apprendre à regarder encore les situations autour de moi? Même les personnes que je vois chaque jour, ça fait 40 ans que cette personne était connue. Peux-tu regarder encore? Regarde encore. Même les personnes que tu penses qu'ils vont bien, regarde-le encore, tu vas trouver qu'ils ont des problèmes. Même les personnes qui postent sur des réseaux sociaux que tout va bien, regarde encore, tu vas trouver qu'il y a des problèmes, mes chers amis. Regarde encore. Ce n'est pas que quand on roule dans des véhicules, on vole dans des avions qu'on n'a pas de problèmes. On peut ne pas avoir de problèmes financiers, mais on a d'autres problèmes. Regarde encore, tu seras un bon diacre. Une aide au-delà de l'attente. Alors, pour terminer, je vais vous montrer un peu le programme de la semaine. Alors, demain, aujourd'hui, nous venons de lancer ces séminaires. Demain, nous serons ici tous à 15h30. Nous allons maintenant entrer en pratique sur ces questions. Nous allons parler de comment donner de l'aide et comment obtenir de l'aide. Beaucoup de gens, vous êtes là et vous vous demandez comment je peux avoir ce genre de problème et il n'y a personne pour m'aider. Tu connais 1000 personnes, mais tu as des problèmes, les gens ne viennent pas. Nous allons voir comment obtenir de l'aide et comment aussi donner de l'aide. En tout cas, si tu veux aider quelqu'un et si tu veux obtenir de l'aide, venez demain à 15h30. Le mardi, nous allons parler de la diaconie face au mal systémique. Le mal qui est déjà ancré dans le système. Il y a beaucoup de problèmes que nous avons parce que c'est le système qui est mauvais. Nos amis qui sont à Kanyaruchinyo, est-ce qu'ils ont fait quelque chose de mauvais? Ils vivent dans un système qui font qu'ils deviennent des pauvres. Et nous tous ici, nous vivons dans un système du mal qui fait que nous devenions des indigents. Et j'exhorte tous ceux qui veulent agir pour le pays ou dans la politique de ne pas manquer le mardi. Parce qu'on va parler comment on peut être diacre au niveau maintenant grand. Pas seulement donner à une personne, à deux personnes, mais au niveau des systèmes, au niveau du pays, au niveau de la sous-région. Comment on peut être des diacres et changer des choses au niveau supérieur. On sera dans Esther chapitre 2 jusqu'à 4. Le mercredi, on va parler de l'appel à la diaconie, l'appel universel à la diaconie, l'hôpital où tout le monde est médecin. Si vous pensez que votre diaconie n'a pas d'effet, venez le mercredi. Nous allons voir comment vos petites actions peuvent avoir des effets. Et puis, le docteur Muyonga va commencer le jeudi. Il va parler du riche et du pauvre qui vivent ensemble, Luc chapitre 16, 19 à 31. Le vendredi, il va continuer avec données concernant aussi les pauvres. Et puis, il va finir le dimanche avec la diaconie de Joseph d'Arimathée. acté. Donc, en finissant, je vous demande de regarder votre voisin. Encore une fois, un regard, les deux voisins, pas vraiment beaucoup. Est-ce que vous avez remarqué quelque chose que vous n'avez pas encore vu avant? Regardez-moi aussi, je suis là. Donc, essayez de regarder. En quittant ici, je vous défie chacun de remarquer une chose ici à Gomaville que vous n'avez jamais remarquée. Parce que vous avez eu un nouveau regard. Une chose à Gomaville, une chose chez votre conjoint, pour ceux qui sont mariés, une chose chez votre conjoint que vous n'avez jamais remarqué, une chose dans votre maison, une chose dans votre quartier et une chose dans votre pays. Ok? Remarque une chose ici à Gomaville, une chose chez votre conjoint, bon, pour ceux qui n'ont pas de fiancé, Moussiangaï Keïl, passez seulement. Une chose dans votre maison, une chose dans ce pays et une chose des personnes autour de toi, et que le Seigneur nous bénisse et qu'il bénisse sa parole. Amen.